Heureux de vous retrouver une fois de plus. Donc, cette troisième émission aborde le premier concile de Constantinople. Mais avant d'en venir aux conditions et circonstances de ce deuxième concile œcuménique, je voudrais revenir encore une fois sur l'importance aujourd'hui un peu oubliée de ces différents synodes généraux. Si peu de jours après la commémoration du sacrifice, il faut se rappeler que le Christ a été condamné, avant tout, pour avoir dit la vérité. Pour insister sur ce point, je reprendrai la réflexion de Mgr Athanasius Schneider dans son dernier livre, Christus Vincit. Il rappelait que la foi est le fondement de la vie chrétienne, la certitude que le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est-à-dire la vérité, s'est incarné en un homme, Jésus-Christ. L'Écriture n'affirme pas que l'amour s'est fait chair, ou que la charité s'est faite chair, ou que l'action s'est faite chair, mais que la vérité s'est faite chair. C'est dire l'importance vitale pour la foi catholique de la vérité. L'Écriture, depuis l'Ancien Testament, nous rappelle sans cesse l'importance de la vérité, en particulier dans les psaumes. Par exemple, le psaume 31, « Tu me délivreras, Yahvé, Dieu de vérité », psaume 45, « Et dans ta majesté, avance-toi, monte sur ton char, combat pour la vérité », le psaume 60, « Mais tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, afin qu'elle s'élève à cause de ta vérité », etc., etc. Le Christ lui-même, dans de multiples circonstances, utilise l'expression « en vérité, je vous le dis ». Il déclare de même « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et « la vérité vous rendra libre ». Or, il s'agit bien au cours de ces différents conciles de rester attaché à la vérité, de proclamer de la manière la plus claire la vérité, de définir et de défendre la vérité. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la réunion du concile de Constantinople I. Toute la période qui s'écoule entre les deux premiers conciles est marquée d'un côté par l'intrusion du pouvoir impérial dans les affaires religieuses et dans le même temps par la tentative de trouver un compromis entre l'orthodoxie et l'arianisme, voire de supplanter l'une par l'autre. C'est pour écarter définitivement cette hypothèque hérétique et les troubles qui pouvaient en découler que l'empereur Théodose convoque un concile qui se réunira en 381. Bien qu'originellement limité aux évêques orientaux, son caractère œcuménique sera confirmé par la suite lors du concile général de Chalcédoine que nous verrons dans une prochaine émission. En rapide rappel du cadre historique, nous avons vu que l'empereur Constant, successeur immédiat de Constantin, a porté son soutien à l'arianisme jusqu'à sa mort en 361. Ses successeurs immédiats, Julien l'Apostat et Jovien, eurent des règnes très brefs. Julien tenta même, de façon assez anachronique, il faut bien le dire, de restaurer les cultes païens. Il persécuta de nouveau les chrétiens avant d'être tué lors de sa campagne militaire contre les Perses sassanides en 363. Par contre, l'empereur Valens, qui leur succéda, était acquis lui aussi à l'arianisme et il pourchassa les chrétiens nicéens, exila les évêques, imposa des évêques ariens sur de nombreux sièges épiscopaux aussi importants qu'Antioche ou Alexandrie. Il s'en prit même aux semi-ariens appelés macédoniens. La controverse théologique était alors menée du côté arien par Eunonius et du côté de l'orthodoxie par saint Basile. Cette controverse tournait encore autour de la notion d'engendrement. Eunonius développait un concept nouveau, dit d'anagénésie, ou existence indérivée du Père, ce qui entraînait pour lui une différence d'essence entre le Père et le Fils. Basile détruisit ce raisonnement en montrant que agénésie, terme à la fois relatif et négatif, ne pouvait définir l'essence du Père, mais relevait plutôt des caractéristiques de son hypostase, de sa personne. À la mort de Valens, qui est tué lors de la bataille d'Andrinople contre les Goths en 378, les évêques nicéens revinrent en fin d'exil. L'empereur arien fut remplacé, comme on l'a dit, par Théodose, lui proche du pape Damase et très attaché à la foi catholique. Son premier décret de politique religieuse faisait expressément référence à, je cite, « la religion que l'apôtre Pierre a toujours enseignée aux Romains ». Fin de citation. Dans ce concile, on doit faire une petite parenthèse préalable pour parler des pères cappadociens qui joueront un rôle vraiment très important. Par le nom de cappadociens, on désigne trois hommes unis par la famille et par l'amitié. Deux frères, Basile de Césarée et Grégoire de Nice, et leur ami commun, Grégoire de Naziance. Saint Basile, pasteur infatigable, personnalité exceptionnelle, a marqué le monde oriental tant par la liturgie qui lui doit son nom, par sa correspondance, par l'implantation du monachisme en Cappadoce, ou par la vigueur de sa pensée qui a infléchi le concile de Constantinople tout entier. À la différence de son ami, Saint Grégoire de Naziance est peu sensible à l'activité ecclésiastique, qu'il subit parfois avec souffrance ou peine. Il était essentiellement un rhéteur, un théologien et un poète. Grégoire de Nyssa, de son côté, finit par consacrer sa vie à la vie contemplative. Mais il eut en revanche une activité pastorale importante pendant une période. Différents dans leurs options, dans leur façon de voir la vie, les Cappadociens ont en fait en commun leur amour de l'Église et de la vie monastique. Leur idéal est celui du moine-évêque, qui a renoncé à tout, sauf à l'art de bien parler, de bien écrire, de dire la vérité. Théologiens, les Cappadociens le sont à bien des titres, et en particulier en raison de leur rapport à la théologie trinitaire. Pour revenir à l'hérésie principale qui sera traitée lors du concile de Constantinople, qui s'appelle le macédonisme, ses premières traces datent de l'année 360. Il y a un synode régional qui dépose l'évêque de Byzance, Macédonius, qui va donner le nom à l'hérésie. Nous avons vu lors de la dernière émission que le credo de Nicée se limite à affirmer l'existence de l'Esprit Saint sans préciser davantage. Macédonius enseignait que l'Esprit Saint n'était qu'un envoyé du Père et du Fils, une espèce de super-ange, qui n'était pas en contradiction directe avec la formule du symbole de Nicée. Cette doctrine se répandit à Constantinople et en Asie mineure, et ses adeptes prirent également le nom de Pneumatomaques. C'est encore Saint Basile qui ferrailla pour écarter cette hérésie dans ses sermons et dans un traité appelé « Sur le Saint-Esprit ». Alors devant donc toutes ces nouvelles hérésies, bon, le macédonisme, Pneumatomaques, dont on parlait, il y avait aussi les apollinaristes qui refusaient de reconnaître l'entière humanité du Christ, les sabellianistes qui réduisaient la Trinité à trois aspects d'une seule personne divine, la nécessité d'un concile apparaissait évidente. Et Saint Basile avait déjà fait une demande à Rome en ce sens en 377. Malheureusement, la situation militaire, il y avait des guerres contre les Alamans à l'ouest et contre les Goths à l'est, rendait la réunion de ce concile général très difficile, voire impossible. C'est pourquoi Théodose décida en 381 de réunir un synode général des provinces orientales dont il était en charge. C'était d'autant plus judicieux que les débats théologiques à propos de ces différentes déviations de la foi étaient bien plus violents en Orient qu'en Occident. Au total, donc 150 évêques se réunirent, dont les pères cappadociens de glorieuse mémoire. Et parmi les pères conciliaires, il y avait également 36 évêques qui tenaient pour l'hérésie macédonienne, dont la cause devait être entendue par le synode. On a malheureusement peu de documents originaux de ce qui s'est passé pendant le concile et pendant les débats. On sait cependant que les 36 évêques hérétiques quittèrent Constantinople très rapidement en refusant de modifier leur position. Après avoir traité de quelques questions juridiques, le concile se termina le 9 juillet 381. Son apport essentiel fut bien évidemment la modification ou l'approfondissement du symbole de Nicée pour y développer la définition de la troisième personne de la Trinité. Bien que tout chrétien en connaisse aujourd'hui le texte, il est bon de le rappeler pour bien voir aussi les compléments ajoutés par les pères conciliaires. Je cite « Nous croyons en un Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait et pour qui, nous les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux. » Donc là, il n'y a aucune modification par rapport à Nicée. Le symbole de Constantinople continue ainsi. C'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie. Ça, c'est un apport du Concile. Et s'est fait homme, et a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. C'est aussi un élément complémentaire qui marque bien l'historicité de l'incarnation. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, ça donne une date. A souffert, a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et monté aux cieux et siège à la droite du Père. Il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Et là, donc, vient ensuite tout un paragraphe sur le Saint-Esprit. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui vivifie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est conjointement adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes et en une Église sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un baptême pour la rémission des péchés, nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Bon, il existe un peu des débats dans le monde universitaire, des débats d'experts pour savoir si c'est vraiment le texte adopté par les pères conciliaires ou pas. Enfin, de toute façon, on n'a pas les documents originaux, donc ce sont un peu des débats un peu oiseux quand même. Donc l'axe principal du concile, on l'a dit, c'était bien préciser la divinité, bien insister sur la divinité du Saint-Esprit. Donc on va faire la même constatation que celle que nous avons faite précédemment sur la consubstantialité du Père et du Fils, c'est-à-dire que ce sont bien les hérésies qui ont poussé les théologiens orthodoxes à définir et à préciser le contenu de la foi. Dans les siècles antérieurs, par exemple, Origène avait évoqué la génération de l'Esprit-Saint par le Père, qui était contradictoire cependant avec l'Écriture qui évoque le Verbe comme Fils unique. Dans Jean, et je cite, « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Bon, il ne pouvait donc y avoir deux engendrés, puisqu'il n'y avait qu'un Fils unique. En conséquence, il fallait déterminer la nature de la relation de l'Esprit-Saint avec les autres personnes de la Trinité. Saint Basile, dans son livre Contre Eunomius, montre que, je cite, « Puisqu'il y a deux classes de choses, la divinité et la création, la puissance sanctificatrice et l'être sanctifié. Dans quelle catégorie mettons-nous l'Esprit ? Parmi les sanctifiés ? C'est impossible. C'est lui qui est la sainteté. » Saint Basile montre également que dans de nombreuses occurrences des Écritures, elles font référence à la seigneurie, c'est-à-dire à la divinité de l'Esprit. En particulier sur Saint Paul, il précise donc que c'est bien l'Esprit Saint qui vivifie. Saint Grégoire de Nazianze écrit que la troisième personne de la Trinité est, je cite, « celui qui révèle, celui qui donne la lumière et la vie. Bien plus, il est la lumière elle-même, la vie elle-même. » Fin de citation. L'Esprit ne reçoit pas la vie, il la donne. De là, on doit conclure à sa pleine divinité. Les Ptomatomaques, niant cette divinité, avaient également déclaré qu'il avait été créé par le Fils. Grégoire de Nazianze, s'appuyant encore sur l'Écriture, retient le terme de procession. C'est dans Jean, je cite, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Grégoire concède quand même le caractère un peu mystérieux du terme. Pour se donner peut-être une image, hein, on peut l'éclaircir en s'appuyant sur le sens trivial de procession. Une procession, c'est une succession de personnes qui marchent unies par un même but. Ça peut donner un éclairage. On sait que par la suite, la nature précise de cette relation amènera aussi le schisme avec l'Église orthodoxe, au sens moderne du terme orthodoxe, dont on a parlé déjà la dernière fois, et l'Église catholique, qui tient que le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils, en latin filioque, comme d'un seul principe et par une unique spiration, alors que les orthodoxes de leur côté tiendront pour que la production éternelle de l'Esprit Saint procède du Père dans ou par le Fils. On voit que ce sont des différences vraiment faibles, mais ça a donné lieu à des débats assez musclés. Indépendamment donc de cette précision sur la nature de l'Esprit Saint, il y a eu des canons juridiques, on va dire. Quatre canons principaux. Le premier canon fait explicitement référence à la foi de Nicée et à l'obligation d'anathématiser toutes les déviations, sans préciser le contenu théologique de celle-ci, hein, puisque c'est un document juridique, on va dire. Et il s'agit bien de dire, condition pour être dans l'Église catholique, c'est d'adhérer à la foi de Nicée-Constantinople. Le deuxième canon demande aux évêques de ne pas intervenir dans les débats et pratiques des autres éparchies. C'était lié aux débats et aux luttes d'influence hein, dans la partie orientale de l'Empire qui mettait un peu de désordre dans l'organisation de l'Église. Le troisième canon entérine une véritable nouveauté dans l'organisation de l'Église. C'est la reconnaissance de la prééminence du siège de Constantinople sur Antioche et Alexandrie. La seule motivation de cette déclaration est de reconnaître une situation de fait, en fait. L'importance de l'évêque, de la ville où réside l'empereur. Or, la capitale de l'Empire est, de manière assez permanente à partir de cette époque-là, Constantinople. On peut malheureusement dire que c'est la mort d'une tendance pernicieuse au sein de l'Église orientale, qui va pencher vers le césaropapisme. On l'a défini lors d'une précédente émission, c'est quand même le lien très étroit entre le pouvoir politique et l'autorité de l'Église. Et c'est un peu le point faible, on va dire, des Églises orientales, indépendamment par rapport à d'autres aspects également. C'est aussi une pierre d'attente hein, pour l'opposition qui va venir entre Rome et Constantinople, qui aboutira finalement, comme on l'a dit, au schisme plusieurs siècles plus tard. C'est peut-être le moment de noter les conséquences immenses de chacun des conciles avec des effets dans tous les domaines de la civilisation, philosophie, art, politique, effets qui sont souvent mis des décennies, voire des siècles à se faire sentir. Le quatrième canon est de moindre importance. Il se résume à la condamnation de Maxime qui a été élu au siège de Constantinople de manière un peu aléatoire, on va dire. Alors les autres conséquences que ces canons disciplinaires, en particulier pour la modification du texte du credo, on l'a dit, ce concile, au départ, est limité aux provinces d'Orient. Et il va être inclus ultérieurement dans la liste des conciles œcuméniques par une décision explicite du concile de Chalcédoine, que nous verrons dans une émission future. Il y a donc, entre le concile de Nicée et le concile de Chalcédoine, il y a encore le concile d'Éphèse, on en parlera la prochaine fois. Donc, au moment de ce concile de Chalcédoine, il y a une décision, de manière rétrospective, valeur universelle au texte mis au point par les pères de Constantinople. L'autre conséquence importante, bien sûr, c'est la fin de l'hérésie arienne, vraiment au sein de l'Empire. Elle subsistera à l'extérieur, particulièrement chez les Goths, mais dans ces peuples qui ont un accès moins courant moins classique à la culture antique, cette hérésie sera désormais incapable de produire le moindre effort doctrinal. De fait, c'est également la fin des hérésies qui étaient liées à la définition de la Trinité. Et les conciles suivants vont s'attacher à un autre point de débat qui était encore, on va dire, moins défini dans les textes que nous avons étudiés sur Nicée et sur Constantinople, qui sont les liens entre les natures divines et humaines dans le Christ. C'est là que les débats vont se concentrer dans les années qui vont suivre et qui vont donc justifier les conciles à venir d'Éphèse et de Chalcédoine, auxquels nous intéressons la prochaine fois pour ce qui concerne le concile d'Éphèse. Voilà, donc ce concile de Constantinople, malgré son caractère régional au départ, a acquis, par la précision qu'il a apportée à la définition de la Trinité, en particulier donc de l'Esprit-Saint, quelle est la nature du lien entre l'Esprit-Saint et les deux autres hypostases, les deux autres personnes de la Trinité, donc cette notion de procession et de spiration, c'est vraiment un apport capital, donc il sera reconnu, encore une fois on l'a dit, au moment du concile de Chalcédoine. Voilà.
Donc un élément très très important dans ce concile.
Absolument. Et encore une fois, c'est bien ce texte, et non pas celui de Nicée, hein, qui est récité... Qui est dit encore aujourd'hui au moment de la messe. C'est dire son importance. Hein. Oui, oui. Donc c'est bien, c'est pour ça qu'on utilise le terme de symbole Nicée-Constantinople. Voilà. Parce qu'on a toute la première partie sur la relation père-fils qui a été définie au moment du concile de Nicée. Comme on l'a dit la dernière fois, il se terminait... le texte de l'époque c'était « et en l'Esprit Saint », point. Oui. Ça, le symbole s'arrêtait à ce moment-là. Et donc là, au niveau du Concile de Constantinople, on a vraiment tout ce détail qui est donné sur le rôle de l'Esprit Saint, en particulier dans l'incarnation, puisqu'on dit bien, je reviens sur cette partie spécialement importante du texte modifié, il s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie. Donc le Saint-Esprit lui-même a déjà un rôle dans l'incarnation elle-même, indépendamment du rôle qu'il va jouer de paraclet, de protecteur, après la remontée du Christ vers le Père.
D'accord. Et bien, en tout cas, merci beaucoup Philippe pour cette nouvelle émission, ce nouvel éclairage aussi sur ce concile de Constantinople. Merci infiniment.
Merci, à bientôt.